Dans un monde très psychologique,
on vit plein tout au plan psychologique,
on voit tout sous l'angle psychologique.
Comme disait quelqu'un tout à l'heure, ouais, faut pas trop parler de vocation parce que
après ça blesse, on peut troubler, etc.
Vous voyez, c'est toute la psychologie, blackout complet sur la religion, blackout collectif.
Ça fait, on n'a pas hésité à mettre le point sur après.
Allez, allez. Le Christ appelle au sacerdoce, répondez. Le Christ appelle à la vie religieuse, répondez. Et regardez en face. Vous n'avez pas à fermer les yeux là-dessus. Psychologiquement, évidemment, on va dire, lamentable. C'est un père et tout. Alors, donc, la question de la psychologie, c'est intéressant. Alors, en psychologie, les grands maîtres de la psychologie moderne sont Adler, Freud, Lacan, Reich, Marcus, Jung, et bien d'autres encore. Il y a aussi une nouvelle école, depuis, je sais pas, 20-30 ans, qu'on connaît sous le sigle PRH, Personnalité Relations Humaines. Oui, c'est des trucs. Donc, vivre tout au plan psychologique, tout ramener au plan psychologique. PRH, c'est ramener au plan psychologique. C'est-à-dire, on perçoit tout le point de vue spirituel par le point de vue psychologique. C'est par le prisme du psychologique qu'on perçoit le spirituel. Et alors, du coup, il y a une espèce de truc qui est très dangereux. C'est pour ça que les évêques de France ont interdit à quiconque s'était déjà engagé dans la vie religieuse ou sacerdotale ou dans la vie chrétienne de faire PRH. Alors, personnalité, relation humaine. C'est pas mauvais, moi j'ai fait du PRH, vous savez, j'ai fait une session PRH, ça m'a fait beaucoup de bien. Avant de m'engager justement, avant de faire les exercices Saint-Ignace, j'ai fait d'abord 15 jours PRH, et ensuite 33 jours dans la foulée d'exercice. Donc j'ai fait 50 jours de suite, 55 jours de suite, 33 plus. Bon alors, rapidement donc la psychologie, vous voyez, je vous ai donné un tableau avec cette colonne, et à un moment donné, notre vie psychologique, c'est la vie animale en nous. C'est ça la vie psychologique. C'est la vie animale en nous. Regardez comme le chien est agréable quand il est fidèle. Et la tourterelle, touchante lorsqu'elle est amoureuse. Et l'aigle, admirable dans sa fidélité. Et la lionne, admirable dans son sentiment, son instinct maternel, son affection. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose d'immensément grand dans la vie animale en nous, qui va très très loin du point de vue de la sensibilité interne, et si bien que c'est tellement noble qu'on peut avoir l'impression que c'est ça la vie spirituelle. C'est la noblesse extraordinaire qu'on éprouve devant l'impassibilité du lion, devant la, vous voyez, c'est la fidélité du chien, etc. Donc toute la vie animale en nous, qui n'a strictement rien à voir avec le point de vue spirituel, de l'amour, de la vérité, de la contemplation et la recherche de la vérité, et de la donation de soi. On se donne. L'homme est la seule réalité existante que nous constatons, qui soit finalisée par autre chose qu'elle-même, qui soit finalisée par un dépassement de lui-même. Je crève le plafond, et le plafond principal que je crève, c'est moi-même. C'est l'extase. On est finalisé par quelque chose d'autre que nous-mêmes, parce que l'animal, non. Et c'est ce qui fait la noblesse de l'animal, d'ailleurs, parce que l'animal trouve sa noblesse en lui-même. Il est un tout. Et à lui tout seul, vous voyez, il y a une espèce de retour perpétuel qui alimente une intériorité animale, une très grande qualité.
Ça me donne l'impression que vous avez quelquefois des gens qui disent « Si les hommes étaient aussi fidèles que les chiens, ce serait merveilleux. » Ça n'a rien à voir avec l'humain, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc tout le point de vue psychologique, c'est le point de vue animal en nous, même s'il peut y avoir quelque chose de grand, c'est normal qu'il y ait quelque chose de grand. C'est pour ça que d'ailleurs le Christ a pris les quatre visages, sur les quatre visages, il a pris trois figures d'animal, et un visage d'homme, vous voyez, le taureau, le lion et l'aigle, et un visage d'homme. Pour les quatre vivants, les quatre évangélistes. Donc, voyez, quel est le grand principe de l'idéologie athée correspondante? Le grand principe de l'idéologie athée correspondante, prenons Freud si vous voulez. Les autres sont des déviations, si vous voulez, des espèces de sous-produits. Qui part du même principe, mais d'une manière différente. Alors, le principe, donc, je vous le rappelle, était le suivant. Puisque, au fond, Dieu existe, l'absolu existe, l'éternité existe, l'être absolu, immense, éternel existe, ce qui est une chose irrenversable, en démonstration philosophique. Même Hegel n'a pas pu le... ni Kant, ce qui est fou. Alors, Feuerbach arrive, philosophe, n'est-ce pas, arrive, en disant, au fond, Dieu, c'est tout simplement, vous, votre philosophie scolastique décadente, vous nous embêtez, c'est de l'ontologie, c'est une erreur, ce en quoi il a raison. La philosophie chrétienne est une erreur et même une malhonnêteté. Et en réalité, parce que Dieu, en réalité, c'est l'homme. Et la religion, c'est le solennel dévoilement, je vous disais, des trésors cachés. De l'homme. L'homme a secrété une religion pour pouvoir, à travers un culte, réaliser qui il est, lui. C'est lui, Dieu, l'absolu. Donc j'imagine Dieu qui est un amour infini parce que je suis fait pour l'amour infini, je suis amour infini. J'imagine Dieu qui est toute vérité parce que je suis fait pour atteindre la vérité dans toute sa vérité, toute son ampleur, substantiellement, etc. Vous voyez, c'est pas bête. La religion, c'est le solennel dévoilement des trésors cachés de l'homme. Mais au fond, c'est une émanation extériorisée, symbolique, qui me permet de me rejoindre, moi, en tant que je suis Dieu. Dieu, c'est l'homme. C'est la première idéologie athée, et alors après, les sept idéologies athées qui vont dans les générations d'après, de philosophie, on va se poser la question, mais c'est quoi dans l'homme qui est Dieu? Et Freud va dire, c'est la libido. Donc, au point de vue psychologique, quand je prends Freud, c'est la négation de l'esprit, Freud. C'est vraiment de regarder que l'homme se limite au point de vue psychologique. C'est la négation absolue de l'esprit. Puisque le surmoi qui pourrait représenter éventuellement les principes qui dirigent notre vie spirituelle est une émanation et une production de castrations successives, sublimées et agrégées dans l'espèce de grenier que constitue le surmoi. Hein, j'espère que les étudiants en psychologie ne me contrediront pas. C'est, en gros, c'est ça. L'homme est réduit donc, c'est la négation de l'esprit, l'homme est réduit à un complexe de castration, enfin tout simplement le fond de l'homme, le point de vue le plus divin dans l'homme, c'est cette espèce d'énergie vitale qu'il appelle libido, pulsion de vie, d'énergie qui irradie tous mes principes de plaisir, d'expansion. C'est pour ça que je l'ai mis dans la colonne de l'amour. La colonne de gauche, parce que dans l'amour, je suis appelé toujours à me dépasser moi-même, à sortir de moi-même, vous voyez, à me répandre, à me donner, à déborder. Et puisqu'il y a la négation de l'esprit, cet aspect-là, en réalité, c'est la libido, c'est cette énergie vitale, au fond, et une énergie universelle qui constitue l'ensemble de l'univers, cette énergie frontale, primordiale, divine, absolue, est ce qui constitue chaque être humain dans son fond, dans son caractère d'absolu, parce que ça tombe dans la matière que ça constitue à l'intérieur d'un corps, un être humain, et bien forcément, ce point de vue d'absolu, de l'énergie vitale,
a besoin de retrouver sa source, c'est-à-dire son caractère universel, et de se répandre sans arrêt, sans arrêt. Mais malheureusement, il y a le papa et la maman qui sont là, disent arrête de te manger les ongles, arrête de te triturer ici, arrête de manger avec tes doigts, arrête de parler quand j'écoute la radio, arrête, etc. Sans arrêt, l'autorité vient castrer. Et donc l'homme est réduit à un complexe de castration. Parce que l'association entre ce qui est d'absolu dans l'homme, c'est-à-dire cette énergie pour se répandre, et le corps, et les autres, va faire que le composé du corps et de ce qu'il y a de divin dans l'homme, c'est-à-dire le caractère absolu, ce principe de plaisir et d'expansion, va faire que le composé des deux sera un complexe de castration qui va donc structurer la personnalité en fonction donc d'un certain nombre de pulsions et de comportements qui ne s'expliquent que par le fait qu'on a été rembarré plus ou moins bien par son père et par sa mère. Complexe de castration. L'homme est réduit à un complexe de castration. Vous voyez, c'est un peu... Vous connaissez tous un peu, en gros, ce schéma complètement ridicule, mais enfin, c'est... Alors c'est pour ça que vous vous parlez, oh, c'est inconscient. En disant, ouais, c'est inconscient. Mais quand vous dites ça, vous posez une affirmation de foi fraternelle. C'est pas inconscient du tout. C'est une affirmation de foi fraternelle, c'est une affirmation de foi athée. C'est-à-dire, quand vous dites que vous acceptez de dire à propos de quelqu'un « Oh, il fait ça, c'est inconscient », c'est de l'athéisme, parce que si vous allez jusqu'au bout, ça veut dire que vous êtes d'accord que ce qu'il y a de plus divin dans l'homme, c'est cette espèce de libido, instinct de vie, qui à travers le corps va s'exprimer par l'instinct sexuel, le principe de plaisir. Et c'est ça l'absolu. Et en fonction de ça, vous allez avoir toutes sortes de maladies, de névroses, de psychoses.
Quoi ?
Psychologique et tout.
Il y a des phénomènes psychologiques. On ne va quand même pas nier que nous avons des phénomènes psychologiques. Mais de dire, ouais, c'est inconscient, ça veut dire vous rentrez dans un schéma d'analyse qui est freudien et qui ne s'explique dans son structuration que par le fait qu'il y a, au fond, ce qu'il y a de plus fort, de plus noble, de plus absolu dans l'homme, c'est cette libido, et ce qu'on doit respecter absolument. Donc surtout quand le petit est là, mais il arrête de le traumatiser. Mon petit, il faut quand même que tu fasses ta prière, mais tu vas le traumatiser, tu vas l'écœurer, tu vas le... Ah bon, ah oui. C'est pour ça que deux jeunes mariés qui sont forcément imbibés de freudisme, seront sans arrêt, à se mordre le nez à propos de l'éducation, parce qu'on aura toujours l'impression, quand c'est l'autre qui le fait, que ça va traumatiser. Quand c'est soi, bien sûr que non, puisqu'on le fait par amour, bien sûr, mais quand c'est l'autre, toujours, tac. Et c'est comme ça qu'il va y avoir, va s'installer à cause de l'éducation, le centre de gravité de la relation entre l'homme et la femme va se situer au niveau donc de la colère, sans arrêt. Parce qu'on considère toujours injuste ce que fait l'autre par rapport à l'enfant, parce qu'on considère que c'est un traumatisme. C'est normal, puisque dès qu'on est freudien, on se plafonne au point de vue psychologique, et le sommet du point de vue psychologique, c'est la colère. Alors, en réalité, ça se passe comment, si c'est pas ça? Parce que c'est bien gentil de dénoncer, mais... Saint Thomas d'Aquin... dans la Somme, n'est-ce pas, a étudié, il a voulu étudier justement tout le mécanisme psychologique de chaque être humain, et comme il a une acuité absolument phénoménale, il a voulu absolument, c'est d'ailleurs le traité de la Somme qu'il a le plus travaillé. Les spécialistes considèrent que, quand on regarde les originaux, c'est les textes qui ont été, il a biffé jusqu'à 12 fois, il a relu et rebiffé des paroles entières. Ça n'avait jamais été fait. Jamais. Un petit peu chez Aristote, un tout petit peu dans le De Anima d'Aristote, mais sinon dans le Péripsyché plus exactement, puisque Aristote c'est en grec, dans le traité de l'âme, Péripsyché, Apophoros. pouvoir lire Aristote dans le grec,
évidemment.
Sinon, on ne comprend pas grand-chose, hein. Donc, et il a fait le fameux traité des passions. Et ça l'intéressait beaucoup de faire ça parce que il voulait voir comment le Christ a vécu des passions. Donc il a regardé comment les passions, la structure dans un homme normal, pour pouvoir après, dans la vie de Jésus, dans les autres traités sur le traité de l'incarnation, plus loin, à un autre moment, pouvoir voir comment le Christ a vécu la colère, comment ça se passait exactement. Dans le Christ, il y a des pro-passions. C'est ce qu'il dit, ce sont des pro-passions. Parce que la passion toute seule, c'est une passion. C'est une passion, je tombe. Du coup de foudre. Vous voyez le Christ coup de foudre avec Marie-Madeleine. C'est pas ça. C'est le Scorsese, c'est ça. Tu vois, le Scorsese, et voilà quelqu'un qui complètement, qui n'a pas crevé, qui ne sait pas ce que c'est que l'esprit. Complètement imbibé dans son affaire psycho, machin. Et donc pour lui, forcément, le Christ, c'est un homme, donc il a eu des passions. Et donc forcément, puisqu'il est extrêmement sensible, que Marie-Madeleine l'a beaucoup aimé et qu'il lui a beaucoup donné, forcément, plein de psychologie, ça implique qu'il y ait eu une passion amoureuse. Saint Thomas dit, c'est le Christ, il y a eu la passion, mais sous une forme tellement assumée par la contemplation que c'était une pro-passion. C'est-à-dire la passion dans son sommet. Bon, ça c'est un petit détail pour vous expliquer que saint Thomas a beaucoup travaillé la question. Lorsque vous allez voir des psychiatres, des psychologues, et que vous leur présentez saint Thomas, évidemment, ils n'ont jamais entendu parler, parce qu'ils ont fait 20 ans d'université en psycho, en psy, machin, mais évidemment, ils n'ont pas vu le seul qui dit la vérité sur la psychologie. Alors il est ça, et ils ont l'air complètement idiots. Parce que tout leur petit jus, c'est vraiment du pipi de chat à côté. Oh, ben ça alors. C'est du pipi de chat. Vous voyez, quelqu'un qui fait psycho, il peut se former, il prend saint Thomas, il prend le traité des passions, il prend la structure, le commentaire de saint Thomas du De Anima, du Péripsyché d'Aristote, pour voir justement que dans les puissances de l'âme animale, il y a l'imagination, la mémoire, le sens commun, la cogitative. Il y a quatre puissances de l'âme animale en nous, de même que les cinq sens externes, de même j'ai quatre puissances de l'âme qui vont animer justement. Vous voyez, vitalisés par l'âme, vont produire un certain nombre de mouvements de sensibilité interne. Le sens commun, c'est cette espèce, c'est pas un organe justement, mais c'est une puissance de l'âme animale en nous qui fait que je suis capable de rassembler toutes les données qui m'arrivent de l'extérieur par les sens externes. Parce que par la vue, je ne vois au fond que la lumière et les formes, par l'oreille, les voix, les sons, tout ce que vous voulez. Mais pour rassembler tout, toutes ces données, et les porter intérieurement en moi, j'ai besoin d'une puissance de rassemblement qui va me permettre d'ailleurs de les garder sous forme d'images, de fantasmes dans mon imagination. Imagination, c'est la deuxième puissance qui permet que ces choses-là, je peux les réimaginer. Par exemple, je vois Fouad. Je le vois une fois, je l'écoute, je l'entends, je sens, je respire. Et puis après, je peux m'imaginer en fermant les yeux, tiens. Vous voyez, ça c'est l'imagination. Et puis je m'en rappelle, après, il n'est plus là. 10 ans après, je peux me réimaginer, la mémoire intervient. La mémoire, cette puissance qui me permet de vivre, de revivre un vécu sensible, après coup, à un autre moment. Et ça me permet aussi de mettre un certain ordre, quelque chose qui correspond à un ordre vécu. Bon, et puis enfin, il y a la cogitative, c'est-à-dire qui rassemble toutes les données et du sens commun et de l'imagination et de la mémoire et de tout ce que je vis intérieurement au point de vue passionnel, qui rassemble tout ça pour préparer justement une matière à l'intellection, à l'abstraction, etc. La cogitative rassemble. Ça correspond chez l'animal à l'estimatif, comme dit saint Thomas. L'estimatif, c'est ce qui fait qu'en effet, il peut, le chien peut vous imaginer, il se rappelle de vous, il vous a connu, associé à, d'ailleurs à votre image qu'il porte en vous. Il y a un instinct d'agréable et de désagréable. Alors forcément, dès que vous approchez, il y a une estimative, une cogitative qui est là. Et c'est pour ça que la fidélité est possible chez le chien, parce que tout de suite, c'est comme s'il se donnait tout entier, ou alors comme s'il réagissait tout entier à un stimuli qui pourtant n'est pas forcément par après extérieur. Qui rapproche presque, on dit presque que les chiens sont intelligents, oui. Qu'on peut leur parler. Allez, va vite chercher la brebis qui est là-bas. Va. Et on a l'impression qu'il comprend, il y va. Il y a des gens qui disent que les chiens sont plus intelligents que les hommes. Intelligents, pas seulement fidèles, mais intelligents. En fait, ça vient de la cogitative, l'estimative en eux. Bref, il y a quatre puissances. Quatre capacités qui encadrent, hein, quatre, qui encadrent toute notre vie intérieure, sensible, tout ce qu'on ressent. Le monde psychologique. Et selon la manière dont ils vont s'entrecroiser l'un dans l'autre, rebondir l'un dans l'autre, je vais vivre de 11 élans, parce que dès que je ressens quelque chose, je réagis. Donc à toutes les données de cette sensibilité interne, imagination, mémoire, tout ça, je réagis. Cette réaction s'explique parfaitement en plein naturel. Et c'est pour ça que saint Thomas montre qu'il y a 11 manières différentes de réagir aux stimuli de ce qu'on ressent intérieurement. L'imagination va me dire, hop, tout de suite je vais réagir, vous voyez. Alors, il va y avoir les 11 passions. Les passions, c'est je suis amoureux. On sent un amour pour elle. La passion de fuite, la passion de peur, la passion de désir, la passion de désespoir, la passion de plaisir, la passion de joie, la passion de tristesse, la passion de haine, la passion de colère, la passion d'audace, la passion de fuite, je l'ai dit, je crois. Les 11 passions. Et il explique comment il ne peut y avoir que 11, pas 12, mais comment ça se passe exactement, et à quel point c'est naturel, et que ces 11 passions sont toutes positives. Donc le Christ les a toutes vécues, et notamment la haine. C'est naturel, là. La haine passionnelle, c'est naturel, là. Et c'est bon. Eh oui, puisqu'il faut haïr avec une haine farouche tout ce qui est contraire à la vérité. C'est pour ça que la fameuse vertu moderne de tolérance, c'est l'hypostase de la charité moderne, n'est-ce pas ? C'est le sommet transcendantal de la charité moderne. J'avais lu dans les notes d'une religieuse à une retraite, la tolérance, c'est la charité dans l'intelligence. Et j'ai dit, vous pouvez dessiner cette feuille et vous torchez les fesses avec. Ça n'a rien à voir avec la charité, rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut être intolérant. Pas du tout ça. Du côté de l'intelligence, on cherche la vérité, c'est absolu. Donc si on accepte le mensonge, on accepte la destruction. Si on accepte la destruction... Donc voyez, donc vous avez 11 passions. Alors maintenant, donc le schéma est là. ces 11 réactions passionnelles, vous voyez, vous réagissez à un stimuli, vous avez eu une maman qui était pénible, etc., quand vous aviez 6-7 ans, au moment de passer à l'âge de raison, et puis la tante est venue, la marraine est venue pendant une semaine, elle vous a cajolé, etc., consolé, un moment terrible, vous avez presque envie de vous suicider, les petites envies suicides de l'enfant de 6-7 ans, vous rappelez ça. Et alors c'est bien qu'après, quand vous avez 26 ans, etc., vous rencontrez quelqu'un qui a les mêmes yeux que la marraine, vous ne vous rappelez absolument pas de la marraine. Et ça crée en vous un stimuli, vous tombez passionnément amoureux d'elle. C'est pas inconscient. C'est une passion. C'est pas pareil. C'est quand même totalement différent. C'est naturel, c'est normal. Ça vient pas d'un complexe de castration. Oui. Hein? Non, mais il y a des choses qui s'accumulent. Tu le portes toujours dans une espèce de mémoire, ça revient sous forme de stimuli passionnels. L'inconscient, c'est les passions, en fait. Les passions, c'est, faut pas dire les... C'est les passions. Tu es passionné. Et toutes les passions, ce sont les réactions, j'allais dire, naturelles que tu as en fonction des expériences que tu as eues auparavant. Mais on peut pas parler d'inconscient parce que ça voudrait dire que c'est la zone de conscience, donc spirituelle, enfouie. Mais le point de vue passionnel n'a rien à voir avec la conscience. C'est pas une conscience enfouie. L'animal n'a pas de conscience. Donc c'est absolument absurde de parler d'inconscient. C'est une tautologie, comme on dit en... Alors, quelqu'un qui fait une tautologie en terminale au baccalauréat, il n'a pas la moyenne. Donc, si vous parlez d'inconscient, freudien, c'est moi qui corrige la copie, vous n'avez pas la moyenne. Par le biais les quatre puissances de l'âme sont là, elles ont accumulé ces expériences, elles les conservent, la mémoire conserve. Bon, l'imagination produit le fantasme, le sens commun permet de rassembler toutes les données extérieures des sens externes. Et puis la cogitative est là, qui permet de rassembler tout ça de manière à ce que quand même, ça ait une signification par rapport à ce que j'ai, la manière dont je l'ai vécu, la manière... Donc j'ai une puissance de l'âme, et puis après, en fonction, je vais recevoir, je sais pas, moi je vais voir une belle Allemande sur les rives de la Baltique, et aux beaux yeux bleus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est pour les accidentés. Alors, qui étaient sur le bord de la route, ensanglantés. Bon, alors... J'ai pas vu, mais...
Avec le moteur qui est sur l'eau. Il est grand.
Une espèce de jet de sang qui est giclé sur le car.
Monsieur
Hervé,
il devait vachement
prêt, ça,
non ?
Ouais, alors donc... Et maintenant, au point de vue psychologique, il va y avoir encore un troisième plan, très important, et même peut-être pour nous le plus important, puisqu'on se trouve, nous les chrétiens, face à une psychologie soi-disant chrétienne qui s'appelle PRH. C'est que, en effet, il y a en nous, au point de vue spirituel, une triple dimension, parce que vous savez, nous sommes à l'image de Dieu, parce que de manière trinitaire. Nous avons une capacité de contempler, donc d'assimiler, de recevoir, d'accueillir et de conserver, et de jouir, et de savourer un autre qui me dépasse et qui se donne à moi dans la contemplation. C'est la contemplation. Quand je te contemple, je te porte en moi. C'est l'intelligence qui permet ça. Le cœur me permet au contraire de me donner littéralement en m'abandonnant, en m'oubliant, dans l'extase. Mais l'autre m'attire tellement que c'est complètement abandonner, donner, et puis le fait aussi de m'engager, capacité de me donner, m'engager, de faire le pas, de dire j'y vais, c'est la liberté. Donc ils ne sont pas libres en ce sens qu'ils sont incapables de s'engager. De dire allez, j'y vais, je me donne, je choisis. C'est ça que je choisis. Ça, c'est un autre aspect, la liberté, je vous en ai déjà parlé, c'est Sartre. Oui, c'est un autre verrou qui coince à cause de Sartre. Bon, alors, ces trois dimensions donc, de la vie spirituelle qui sont propres à l'homme vont avoir, parce qu'on s'exerce quand même, on désire aimer, on désire choisir, on s'engage malgré tout. Toujours plus ou moins, on s'engage et... Et puis on contemple, on cherche la vérité. Et donc tout cela, ça va avoir une répercussion, un écho dans la psychologie. Ce que n'a pas l'animal. Et c'est ce qu'on appelle les sentiments du moi. Vous voyez, sur le tableau, vous avez les sentiments du moi qui correspondent aux trois colonnes de l'amour, la première. La troisième, l'intelligence capable de contempler, et la dernière, qui est le point de vue donc de la liberté absolue qui permet d'atteindre l'être et de vivre dans son être, comme disent les PMH, de vivre dans son être. J'ai trouvé en moi l'être. Ils n'ont rien trouvé du tout. Ils ont trouvé le moi autonome, c'est très différent. Alors, c'est quoi ces sentiments du moi? C'est très simple. Vous avez, là, comment est-ce qu'on appelle ça, le fait de se ranger les ongles, là? L'aricophagie. L'anonicophagie. L'onicophagie. Le fait de se ranger les ongles, c'est un phénomène, donc, c'est un phénomène humain. Vous ne verrez jamais un singe qui se range les ongles. C'est quelque chose d'humain. C'est vrai que c'est psychologique, mais c'est humain. C'est une redondance, un écho d'une insuffisance. Une insuffisance dans le domaine de la vie contemplative, la recherche de la vérité. Vous voyez? Si j'ai trouvé la vérité, quand je suis dans la lumière, quand j'ai atteint en moi la vérité sur moi-même, sur Dieu, sur l'autre, etc., je suis en pleine sécurité. Et la femme a tellement besoin de sécurité. C'est normal parce que l'homme apporte, dans la relation entre l'homme et la femme, c'est bien connu que la femme a besoin de sécurité parce que c'est normal, c'est naturel, parce que l'homme, elle a besoin de son complément, l'homme apporte avec lui la lumière, la clarté dans le domaine de l'amour. Vous voyez ça? Vous vous rappelez ce qu'on disait? Et ça c'est un des sentiments du moi. Et lorsqu'il n'y a pas cette lumière, lorsqu'il n'y a pas cette clarté, ça va produire l'anxiété. Et du coup, on va faire l'onicophagie. C'est par rapport à l'instant présent, par rapport au présent, puisqu'au fond, la psychologie se structure toujours par rapport au temps. Dans l'instant présent, vous êtes en ce moment, si vous bouffez les ongles, c'est pas du tout parce que, à cause d'une complexe d'Oedipe que vous avez eu. Quoi ? À cause d'un complexe d'Oedipe que vous avez eu. Vous voyez, quelqu'un qui se fait de l'onicophagie, en effet, vous allez lui dire, attends, je vais te dire quelle est ta vocation. Non, non, surtout pas. Mais, prenez par exemple parmi les gens que vous connaissez, c'est quelque chose d'expérience quotidienne, ça. Alors, c'est par rapport au présent. Par rapport au présent, tu... Si. Par rapport à l'instant présent, l'onicophagie, c'est par rapport au fait que vous êtes dans votre peau, enfin dans votre sensibilité, dans votre animalité, dans votre psychologie. Actuellement, ça ne va pas. Actuellement, ça ne va pas parce que vous ne vivez pas donc des passions sous le mode des pro-passions. Mais souvent on dit, tiens, on se bouffe les ongles parce qu'on a eu des problèmes, et c'est pas du tout vrai. Ou alors on se bouffe les ongles parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on va devenir, non, pas du tout vrai. On se bouffe les ongles, moi je me suis bouffé les ongles jusqu'à la garde. Tu sais, je me les arrachais. Donc, je sais ce que c'est, hein. Il y a très très peu de temps, je crois que c'est quand j'ai reçu l'ordination que ça s'est arrêté. Ah, tu vois. Alors, vous voyez, c'est par rapport au présent, parce que c'est dans le présent, la contemplation se situe toujours dans l'instant présent. Dans le présent, parce que la contemplation, c'est toujours par rapport au jugement d'existence. Et le jugement d'existence, c'est quand je touche en ce moment, tiens, tu existes. J'existe. La contemplation, c'est toujours le réel, et le réel est toujours dans l'instant présent. Et lorsque dans le réel, l'instant présent, celui que j'aime, je vois qu'il m'aime, et je vois que nous nous aimons, ça me met dans la sécurité. Et je vois à quel degré, à quel point nous nous aimons. Ça met mon cœur de femme dans la sécurité. En ce moment, je ne suis pas du tout dans l'anxiété à l'idée qu'un jour ça s'arrêtera. Non, pas du tout, je suis en pleine sécurité. Et l'anxiété, c'est l'inverse. Vous voyez ça? Donc c'est assez facile. Comme la fille qui se coupe les fourches, c'est pareil. On prend les fourches. On passe 3 heures par jour à s'enlever les fourches. C'est l'équivalent, hein? Ou alors on se bouffe les ongles des pieds, c'est pareil. Donc vous voyez, c'est la question de la formation, la vie contemplative qui joue ici. Est-ce parce que peut-être qu'on n'adore pas assez, on n'a pas appris à adorer? Et quand on adore, vous voyez, j'existe, je touche en moi le point de vue de l'être, cet être qui émane. Dès que je suis suspendu à la créature de Dieu en ce moment, en cet instant, en ce moment, il est en train de me créer. Faites-le, vous allez voir. Dieu est en train de me créer, c'est extraordinaire. Ça coupe court, l'odicophagie, jusqu'à ce que l'acte d'adoration ça s'arrête, forcément. En tout cas, vous voyez, donc, vous avez deux sentiments du moi, un positif, un négatif, pour chaque structure de l'image de Dieu en nous. Si on reste en philosophie, puisque l'image de Dieu c'est théologique, donc pour chaque structure de ce qui fait le point de vue du spirituel et de l'humain, la demeure de l'humain, donc. L'instant présent, c'est bien sûr par rapport à la réalité que je touche, que je contemple, par le jugement d'existence. Le second point de vue, c'est l'amour, qui va structurer tous nos sentiments de culpabilité et de valorisation. Alors, la culpabilité, c'est quoi? C'est par rapport au passé, bien sûr. J'ai touché en moi, quand même, c'est un très bon examen de conscience, d'essayer de discerner dans toute ma vie, là où j'ai touché des limites, les limites de l'exercice de mon intériorité, de ma vie humaine, là où il y a eu des échecs, là où j'ai touché mes limites. Les limites, c'est quoi? Ben, c'est la trahison par rapport à l'amour. J'ai trahi. C'est vrai, j'ai trahi. Il y a eu des trahisons. Ça fait mal. J'ai échoué, point de vue donc de l'amour. Il y a eu des échecs. Il y a aussi le mal. Complicité avec le mal. Une complicité, oui, toutes les limites tu poses là. De la maladie aussi. Tout ça, c'est des choses qui culpabilisent. Dans le passé, qui culpabilisent profondément parce qu'ils correspondent à des échecs dans l'élan de l'amour, ou parce que la maladie vous replie toujours sur vous-même, si vous voulez, la mort aussi, le mal aussi, les trahisons. Vous voyez, il faut voir toutes les limites de l'exercice de humain de l'amour en nous, et on sait très bien qu'on est moche du point de vue de l'amour, on n'a pas réussi à aimer. Mais toutes ces choses se sont accumulées Et du coup, ça fait une espèce d'atrophie qui va avoir une redondance dans notre sentimental. Vous voyez, c'est une redondance sentimentale en nous qu'on va appeler la culpabilité. On va être cette espèce de complexe de culpabilité. Mais c'est un écho, en fait, de manque d'échec. Donc, on en a tous. Et par contre, vous avez aimé, vous avez été extraordinaire, vous avez organisé un pèlerinage merveilleux qui a marché comme ça, rubis sur l'ongle. Celui d'Israël était merveilleux aussi. Décidément, ça marche bien. Enfin, alors ça crée, voyez, en vous, un autre complexe, un autre sentiment, c'est un sentiment de valorisation. Vous sentez valorisé parce que vous avez fait des choses, vous avez sauvé 100 000 personnes qui crevaient de faim, à vous tout seul. C'est extraordinaire, ça met en vous une espèce de... sentiment profond, valorisation. Vous êtes valorisé, donc c'est par rapport au passé, ça. Et vous avez encore une troisième, un troisième aspect, c'est par rapport au futur. C'est la fameuse aliénation, autonomie, aliénation, un sentiment d'autonomie, un sentiment d'aliénation. Donc vous avez les six. Mais les principaux, c'est sûr que c'est l'anxiété, la sécurité, la culpabilité, la valorisation. L'aliénation et l'autonomie, c'est des choses qui sont importantes, mais qu'on ne réalise pas trop, toujours, parce que justement, on n'est pas tellement... C'est marqué sur votre tableau, hein, vous avez les sentiments du moi sur le tableau, à cette colonne. L'autonomie, c'est quand par rapport au futur, vous avez trouvé le lieu où vous êtes dans la permanence, vous avez trouvé le lieu où vous êtes perpétuellement en contact avec votre destination future, éternelle, définitive. C'est bien sûr par l'adoration, quelqu'un qui adore a trouvé son autonomie. Profondément. Dans une vie naturelle. C'est de la philosophie, ça. Et il va avoir un sentiment d'autonomie, il va se sentir parfaitement autonome. C'est bien que le meilleur moyen de se sentir autonome par rapport à tout ce qui nous entoure, c'est d'adorer. C'est de trouver le moyen d'adorer au point de vue naturel. Et si par contre, au contraire, vous êtes par rapport au futur, qu'est-ce qui va m'arriver, je ne sais pas ce que je vais devenir, est-ce que je vais tenir, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'il va dire oui, est-ce qu'il va dire non, est-ce que je vais me casser la gueule, etc. Et j'adore pas à ce moment-là. La correspondance par rapport au christianisme, au théologal, c'est l'espérance. À ce moment-là, je vais me sentir complètement aliéné, entouré par des forces contraires qui vont me happer, qui vont faire que je vais chuter, qui vont faire que je ne tiendrai pas le coup, qui vont faire que je doute sur mon avenir, qui vont faire que je pense que ça ne tiendra pas, etc., etc. Un manque d'adoration, ça. Do you understand? Donc là, le remède à ça, un remède archi-classique, c'est de faire 7 actes d'adoration par jour, ce qui prend exactement 4 x 7, 28 secondes par jour. Vous touchez, vous constatez que vous existez, j'existe, et ce exister, ça dépend complètement de Dieu, qui fait que vous êtes suspendu à l'être créateur de Dieu, vous en prenez conscience. Vous êtes bien là, suspendu, aliéné totalement par le créateur de Dieu du point de vue de l'être. Et du coup, tout ce qui est à votre disposition, à savoir votre liberté, votre vie, vous mettez sous la même dépendance. Et comme ça, ça échappe à toutes les griffes extérieures. Et vous vous retrouvez vous-même parce que Dieu, quand il vous crée, il vous redonne toujours votre autonomie, parce qu'il veut votre liberté. Si vous faites 7 actes d'adoration naturelle par jour, vous arrivez à un sentiment psychologiquement d'autonomie. Et vous n'êtes plus du tout, et vous mettez donc la balance plus sur l'autonomie que sur l'aliénation. gens qui sont tout le temps aliénés, en danger, etc. En danger, peur d'être influencés. On n'a pas le droit de l'influencer, etc. Oui, là vous avez à ce moment-là, ici, donc 6, 11, 4. Et donc là, vous avez donc tout le vécu au niveau de notre animalité, sachant quand même que les 6 dont nous parlons et qui constituent la personnalité, ça c'est propre quand même à l'homme, mais c'est quand même vécu dans la zone animale. Et PRH consiste à essayer d'échapper à tout ce que PRH en fait reçoit quand même plus ou moins le freudisme, et dit on va essayer d'échapper au freudisme pour essayer de rejoindre en nous le moi autonome, c'est-à-dire, et c'est ça l'humain en nous. Donc en réalité, il désire, il considère que l'humain en nous, ce sont ces sentiments-là, qui en réalité sont des sentiments qui sont vécus dans la zone animale, et ce n'est pas du tout le humain en nous, puisque l'humain en nous, c'est la vérité, c'est le bien, et c'est l'être. L'être premier, notamment. C'est ça qui structure l'humain en nous. Si vous préférez, la contemplation, l'amour et la donation de soi. Vous voyez ça? Est-ce que ça va comme petit... C'est un petit cours où je donne vraiment schématiquement le truc. Enfin, j'espère quand même que vous voyez à peu près clair ce que ça veut dire. Et si vous voulez voir en détail, vous regardez la somme de saint Thomas dans les 11 passions. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Et c'est normal que dans les psychologues, puisqu'on fait la négation de l'esprit, donc on nie complètement le point de vue de la cause finale, le fait qu'on soit causé, donc qu'on soit naturellement conditionné par une attraction de quelque chose qui nous finalise et qui est extérieur à nous, ça c'est complètement nié par la psychologie moderne. Complètement, complètement, complètement. Donc l'humain est nié. C'est très curieux. Donc il faut le savoir. Donc on étudie en psycho tout ça pour montrer à quel il faut découvrir à quel point il se trompe. Donc il faut aller jusqu'au bout dans l'étude de ce que. Hein? Hey. Apprendre bien par cœur en disant et je rigole bien. Donc on se coupe complètement de la fidélité. Si bien quand vous allez voir un psychologue qui n'arrive pas à se dépatouiller avec un type, parce qu'ils ont remarqué, les psychiatres, les psychanalystes, qu'à un moment donné, après la période de transfert, le type est complètement perdu. Il ne sait plus quoi dire. Il arrive à un moment de désespoir, d'insécurité absolue, d'anxiété totale, d'agressivité extraordinaire. Et puis en même temps, une pause à un moment. Et au moment de cette pause, il pose toujours la question, est-ce que vous croyez en l'homme? Tous les malades, pas tous les malades, est-ce que vous croyez en l'homme? À quoi ça sert? Est-ce que vous croyez en l'homme? Parce que, alors, dans la thérapie, il ne doit rien répondre. Parce que pour Freud, il n'y a pas d'homme, il n'y a que la libido. Et du coup, il bloque. Et du coup, il tombe dans une espèce de vide, une déstructuration, et à partir de cette déstructuration, à repartir à zéro. En se renfermant du coup dans le monde psychologique, jusqu'à ce qu'ils aient une future névrose plus grave, 20 ans après, 15 ans après. Enfin, peut-être que pendant 5 ans, ils sont tranquilles. Et encore. Alors à ce moment-là, quand ils se trouvent face à des gens comme le philosophe, parce qu'ils se trouvent les psychiatres, les psychanalystes, qu'est-ce que je suis? Ça m'angoisse à chaque fois que j'entends cette question du malade. Je sens un malaise profond en ne répondant rien. Et d'ailleurs, je ne vois pas du tout ce que je pourrais répondre. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre? Alors, c'est le père Marido qui s'était fait poser la question par tout un groupe de psychanalystes éminents, suréminents même, Et il avait répondu, vous n'avez pas le droit de vous taire.
Il existe des psychologues chrétiens.
Ça peut arriver, oui. Et donc vous n'avez pas le droit de vous taire. Et alors qu'est-ce qu'il faut répondre? Il faut vous répondre, je crois en l'homme qui est finalisé, qui a un but dans sa vie. Donc qui est finalisé, donc qui est but, qui a une fin, qui est attiré par quelque chose qu'il choisit. Alors il paraît que, parce qu'ils ont cheminé quand même 3 ans, une fois par mois, ils se réunissaient, philosophes et psy. Et donc ils ont essayé de voir ce que ça donnait au point de vue thérapeutique. Quand on répondait à ce moment précis de la psychanalyse, et ils ont dit, ça est incroyable, mais ça soulage immédiatement. Immédiatement le malade. Et il repart. Mais il repart bien. Au lieu de repartir dans le vide et le chaos. Ils ont constaté ça. C'est une découverte qu'on découvre de plus en plus. C'est qu'au-delà donc, de toutes les zones chaotiques, complètement chaotiques, dues de l'inconscient absolu, qui est vraiment le magma chaotique parfait, parce que les libido, c'est pas déterminé du tout. Eh bien, en fait, si on creuse, on trouve très profondément un noyau qu'on appelle, avec PRH, le moi autonome. En fait, ce noyau qui est le moi autonome, c'est simplement la redondance dans notre sentimentalité, dans notre psychologie, très très profonde, la jonction de tout ce, du point de vue de l'être, qui a son écho en nous. Et ce point de vue de l'être, une fois que je le touche, plus ou moins dans la psychanalyse, je pose forcément la question, mais ça, est-ce que vous y croyez? Ou est-ce que c'est une... Alors il faut répondre, oui, ça, c'est pour faire, pour bondir vers quelque chose d'autre que toi. On est finalisé. L'homme est un être qui est finalisé. Et qui est fait pour être attiré par quelque chose d'autre que lui-même et donner sa vie à quelque chose. Rappelez-vous ce que l'abbé Pierre avait dit à ce pauvre type qui voulait se suicider tout à fait au début, quand il était jeune prêtre, qui voulait se suicider sur le pont de la Seine, là. Et il lui avait dit, ne te suicide pas parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il lui a donné une finalité, j'ai besoin de toi pour sauver les autres. Donc il a donné une nouvelle finalité. D'un seul coup, c'est terminé. Sa névrose de suicide, sa névrose d'échec, pulvérisée d'un seul coup. Complexe océanique aussi. Et c'était l'association entre complexe océanique qui voulait se plonger dans la Seine, la névrose d'échec et la névrose de suicide. Bon, voilà la question qu'on m'avait posée. Est-ce qu'il y a une autre question? On m'avait posé la question de...
Conscience d'Olto, enfin des deux petits tomes sur l'évangile vu
au risque de la psychanalyse.
Françoise d'Olto, l'évangile au risque de la psychanalyse, que faut-il en penser?
À la poubelle.
Bon, prenez Saint Thomas. Non, Françoise d'Olto est intéressante, mais elle donne son interprétation, une interprétation intelligente d'ailleurs. Elle essaye que ce soit pas trop contraire à ce qu'enseigne la foi, quand même. Donc la tradition de l'Église, elle essaye. Au risque de la psychanalyse, oui. Bon, c'est pas génial. On peut pas dire que ça a une très grande profondeur. C'est comme... ça nourrit pas. C'est intéressant, mais ça ne nourrit pas. C'est ça l'intéressant au plan philosophique. De regarder la Bible, ce que dit la Bible, au plan philosophique, naturel. Mais au plan surnaturel, ça t'apprend rien. Au plan révélation, ça t'apprend rien. Au plan de la foi, ça ne nourrit pas. Au plan intellectuel. D'accord? Donc, pour passer le temps comme ça, quand tu as fini Saint-Jean de la Croix, tu vas aller prendre une petite récréation. Tu prends Françoise d'Olto, tu sais que tu perds ton temps, mais c'est bien. Ça ne te nourrit pas. Vous voyez? Bon, on m'a posé la question de l'homosexualité, je crois. C'est... Est-ce que vous pouvez réveiller la, la personne qui m'a demandé ça? Elle est derrière toi. Alors, sur l'homosexualité, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur l'homosexualité. Comment est-ce que l'homosexualité peut être vécue au point de vue chrétien? Est-ce qu'on peut être homosexuel et chrétien? Est-ce que... Alors, ça, c'est... Du point de vue de l'amour, on distingue toujours, distinction classique, entre l'amour de similitude et l'amour de complémentarité. Alors, ça, c'est encore de la philosophie. C'est normal parce que les deux grands mouvements de l'amour sont ceux que je vous avais déjà dit ici, en disant vous êtes attiré par un autre que vous, qui est votre bien et qui vous attire. Et vous le choisissez pour votre fin. Vous allez finaliser toute votre vie et vous allez lui donner toute votre vie. Donc, si il est votre bien, vous l'aimez. Vous l'aimez parce qu'il est votre bien. Et il vous attire. Vous vous reconnaissez en lui. D'une certaine manière, il y a une espèce de reconnaissance en qu'il sera votre bien. Il va vous magnifier. Il vous attire. Donc vous le choisissez. Mais en même temps, quand vous le choisissez, vous vous donnez complètement, notamment à la dernière étape de l'Imperium, là, qui était au cinquième, vous donnez complètement à lui pour que ce bien en question soit encore plus en lui-même, dans un épanouissement le plus parfait possible, le bien. Vous voyez? Donc il y a deux mouvements. Et l'accueil et le don. Dans l'amour, encore une autre manière de regarder, dans l'amour, il y a l'accueil et le don. Du point de vue féminin, du point de vue masculin. Lorsque l'accueil et le don se conjoignent, comme le dit le Saint-Père, un très beau texte du Saint-Père sur la conjonction de l'accueil et du don, ouais, c'est assez beau, c'est un peu ce que dit le Saint-Père, entre le corps de l'homme et le corps de la femme dans la relation sponsale, sans parler même du mariage, eh bien, la femme est complètement donnée, et Adam, qui la reçoit comme étant donné, lui étant donné, l'accueille. C'est curieux ça d'ailleurs. C'est une véritable révélation pour lui, comme je vous disais. Ça déchire dans son âme, dans son cœur, dans toute sa personne. Ça lui révèle quelque chose d'extraordinaire. Il s'aperçoit que il est appelé par elle à répond avec cette même profondeur, même intensité qu'elle se donne à lui. Ça révèle en lui une capacité d'aimer qu'il n'avait pas trop réalisée jusqu'alors. Et en effet, à ce moment-là, cette illumination, cette révélation de son cœur d'homme, associée au fait qu'il l'a accueilli dans l'amour, il l'a vraiment accueilli, il a puisé dans le don qu'il a reçu d'elle, cette capacité de se donner à son tour, avec cette révélation, avec cette aura, et c'est pour ça qu'il apporte donc à la femme la réciprocité, il apporte donc avec le don, la lumière, la sécurité, la réciprocité. Et elle, recevant donc l'homme, le cœur de l'homme, de cette manière-là, est enrichi de manière extraordinaire par cette fameuse énergie lumineuse dans l'ordre de l'amour que l'homme apporte avec lui et qui est vécu au point de vue psychologique par un sentiment de sécurité. Le plan spirituel, c'est beaucoup plus autre chose, c'est plus le fait de la réciprocité du don, de la compénétration des dons, qui apporte avec elle à la relation un caractère lumineux, qui révèle en elle, qui creuse en elle, qui la touche profondément, et du coup ça déchire en elle, et d'une certaine manière, ses entrailles de phare et un enracinement encore plus profond qui lui permet de se donner de manière encore plus profonde. Et du coup, elle s'abandonne à nouveau à son mari et se donne sous ce nouveau mode, cette nouvelle intensité d'amour. Et lui, à nouveau, c'est une révélation pour lui, en moment eux. Et c'est comme ça que l'amour ne cesse de s'intensifier, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, je le dis de mémoire un petit peu ce que ça perdit. C'était ça, vous voyez, mais c'était le jeu et le mécanisme du temps et de l'accueil dans la femme qui fait que c'est sans arrêt, chaque moment, aucun moment ne s'échappe sans que l'amour ne s'intensifie. Telle est la structure de la relation entre l'homme et la femme dans la grâce originelle, Adam et Ève. C'est à ce seuil-là qu'on doit se situer dans l'amitié entre l'homme et la femme. On ne doit pas s'arrêter d'aller toujours plus profondément dans le don. Et si à un moment on s'arrête, c'est un signe, ou bien qu'il faut aller encore plus profond, ou bien que ça va. Il faut chercher ailleurs. Encore que, ailleurs c'est quoi? C'est la rédemption. Parce que si je me suis arrêté, c'est pas parce qu'il ne faut pas que j'aille chercher ailleurs quelqu'un d'autre, mais il faut que j'aille chercher ailleurs que dans ma nature, la capacité de remédier à mon blocage. Et cette remède, c'est quoi? C'est le Christ. Donc le Saint-Père explique comment le Christ intervient et la grâce intervient pour suppléer justement à toute cette incapacité de faire que la compénétration du don et de l'accueil s'intensifie sans arrêt. C'est là que va intervenir bien sûr le sacrement, avec la présence réelle de Jésus, qui va supplier à tout ça. C'est intéressant. Alors donc pourquoi est-ce que je parlais de ça? Oui, à cause de l'homosexualité. L'homosexualité, donc truc archi-classique, nous vivons deux sortes d'amour, l'amour de similitude, l'amour de complémentarité. Notre cœur d'homme, notre cœur de femme, c'est normal, c'est attiré par celui qui est semblable à lui. Par son semblable, Adam déjà face à la femme, face à lui, un être semblable à lui. Amour de similitude et amour de complémentarité, eh ben, c'est un être qui est quand même tout à fait autre, notamment par le corps. Donc on a ces deux choses, vous voyez. Quand j'ai été conçu par ma mère, elle a eu le bonheur de concevoir en même temps un frère jumeau. Bien qu'une seule chair, je sais ce que c'est, non? Absolument, pas de problème. C'est une seule chair, tout le temps, et tout le temps avec quelqu'un, une seule enveloppe charnelle, après, le même sang, le même truc, le même vécu, la vie commune, même quand on est séparé, on sait. Et c'est évident que lui, maintenant qu'il s'est marié, amour de similitude. Amour de similitude. Hein. Amour de complément. Maintenant qu'il est marié, sa femme, ça fait beaucoup souffrir sa femme, parce que c'est de manière un peu bête, parce que sa femme sait qu'elle n'atteindra jamais un degré d'unité aussi fort que celui qu'il a avec son jumeau. Alors ça fait une espèce de jalousie, complètement idiot du reste, complètement. Parce qu'on bloque les deux. L'homosexualité, c'est vient justement du fait que il y a un blocage des deux, alors que c'est totalement différent. Donc l'amour de similitude fait qu'on a vraiment des relations très très riches, très profondes, très viscérales avec des amis du même sexe, si vous voulez. Et qu'on peut très très bien éprouver que lorsque mon ami, surtout chez les filles, ça c'est assez fréquent, deux amis très 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 amis, il y en a une qui commence à se faire draguer, j'allais dire, par un soupirant, un postulant. Hein. Alors l'ami IE lutte à mort pour l'éviter absolument. Cette jalousie extraordinaire qui vient en fait d'un blocage entre l'amour de similitude et l'amour de complémentarité, qui fait qu'on voit absolument pas que ces deux choses se nourrissent l'une l'autre, c'est pas facile absolument pas. Ça vient du fait du reste que. Ça vient aussi du fait qu'on vit précisément dans une ère d'homosexualité avec une méconnaissance totale du corps, et notamment les relations sexuelles, même entre hommes et femmes, sont vécues la plupart du temps de manière homosexuelle. On estime qu'à peu près dans 75% des cas, ce sont des relations homosexuelles qui sont vécues entre l'homme et la femme. Je m'excuse, mais pour ce que je veux dire, c'est pas très, c'est un peu grossier, mais c'est vrai que le type se masturbe dans l'agent de la femme et c'est tout. Et réciproquement. Une masturbation réciproque. C'est homosexualité. Alors, il est évident que c'est évident que ça va pas. Alors, quand ce blocage se fait presque systématiquement, qu'il est vécu par les parents, qu'on vit dans une ambiance d'homosexualité perpétuelle, il est évident que le gosse, qu'est-ce que vous voulez, il ne sait pas absolument pas, il n'a jamais découvert l'amour de complémentarité. Et voilà. Alors il va se découvrir, j'allais dire, une tendance à l'homophilie. Et il va s'y investir parce que, après tout, quitte à ce que la relation soit homosexuelle, autant qu'elle soit pleine. Et c'est pour ça, qu'on dit que la relation homosexuelle vous saisit davantage que la relation hétérosexuelle. Ce qui est faux, ce qui est juste de dire, c'est que la relation hétérosexuelle vous prend moins que la relation homosexuelle, tout simplement parce que c'est une relation homosexuelle infâme. Et si vous voulez vivre une relation hétérosexuelle, vous allez dire, en tant qu'homme et femme, comme l'enseigne la philosophie réaliste, c'est-à-dire la manière dont je vous ai parlé, hein, c'est évidemment au centuple. Et ça n'a rien à voir. Donc c'est le même péché, c'est la même faute, et c'est la même détresse d'avoir des relations sexuelles comme ça. Spiritualité du marteau-piqueur et de l'homosexualité. C'est pareil, c'est le même problème. Mais quand. Sauf que ça va plus loin, c'est tout. Donc, lorsque quelqu'un vient au confessionnal et qu'il dit, ben voilà, j'ai des machins, ben oui, mais c'est très bien. Je suis très content. C'est très bien de demander un pardon parce qu'en effet, c'est pas tout à fait ça que Jésus demande. Je vois pas tellement l'Immaculée faire ça, ni Saint-Joseph. Donc, en effet, ça va pas. Donc, les saints se font pas comme ça. Bon, mais quand quelqu'un d'autre arrive en disant j'ai des relations avec une copine, un type vient me voir, mais c'est pas bien en effet, oui, ça va pas, parce que c'est pas ta femme, tu vas pratiquer. Comme dit Jacques Marin, tu vas pratiquer le vol. C'est du vol. La belle casse-tête de Jacques Marin sur les idoles. Tu as idolâtré. Et tu vas pratiquer le vol, c'est pas de l'adultère, c'est du vol. Parce qu'il n'était pas à toi. La cassette de Diaconat Service dénonçait les idoles. Si vous avez acheté là, elle est très intéressante. Il y a très peu de cassettes intéressantes, mais celle-là est bien. Jacques Marin. Et un petit peu dit, mais alors, je suis homosexuel, comprenez, c'est terrible pour moi, c'est machin, c'est horrible, c'est machin. Mais oui, mon petit, mais dis donc. Tu dois lutter contre, exactement comme moi, je dois lutter contre. Parce que quand j'ai des tentations de n'importe quoi, féminines, ou quand j'ai des tentations de comment est-ce qu'on appelle ça, d'onanisme solitaire, etc., c'est exactement le même combat. Donc tu luttes contre, tu utilises les sacrements, la confession, non, tu es comme tout le monde. Tu retrouves ta virginité, sans regarder au résultat, tu pètes la gueule, etc., c'est autre chose. Tu reviens, et tu remontes la pente, comme nous. C'est le même effort. Ah, oh, c'est beaucoup plus dur pour nous. Je vais te donner un coup de pied aux fesses, tu vas voir si c'est plus dur. Pas plus dur. Enfin, jamais je pourrais aimer une femme. Je pourrais aimer une femme. T'as qu'à d'abord faire oraison. Quand tu feras oraison, l'Esprit Saint va venir, va travailler, il y aura des purifications extraordinaires, pas drôles forcément, pas forcément très drôles, mais petit à petit ton cœur va découvrir une capacité de se donner et d'accueillir à un niveau extrêmement profond qui va te permettre de vivre du sacrement de mariage. Le sacrement de mariage va te rédemptionner, va te donner une espèce de rédemption qui fait que l'amour de complémentarité va venir comme un wagon, au lieu que cet amour de complémentarité sexuelle soit la locomotive. Et donc c'est une grâce que tu sois là. Parce que si tu n'avais pas eu ça, j'allais dire, peut-être que tu n'aurais pas vu l'urgence de faire oraison, de retrouver en toi le du naturel, par la grâce, et dans le sacrement, éventuellement, et les sacrements te permettent de pouvoir trouver dans l'Esprit Saint la locomotive, et la locomotive de l'Esprit Saint entraîne avec moi le point de vue spirituel. Le point de vue spirituel entraîne l'âme, l'âme entraîne le corps. Mais derrière, et hop, si je connais qui ont gagné là-dedans, oui, bien sûr. De toute façon, les passions ne sont pas les mêmes à 20 ans, comme on dit toujours, les passions ne sont pas les mêmes à 20 ans. C'est un phénomène passionnel et psychologique, hein, l'amour de complémentarité et l'amour de similitude. C'est un phénomène psychologique. En fonction d'un vécu passionnel, or les passions ne sont pas du tout les mêmes à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans. Un type de 70 ans qui tombe amoureux, c'est pas du tout pareil. C'est donc un peu spécial. Vraiment spécial, il y a des gens qui ne sont jamais tombés amoureux, ils arrivent à 60 ans, dans les monastères. Les moines, là, ils n'ont jamais eu de problème, ils ne sont jamais tombés amoureux, ils sont rentrés au monastère. Et tout d'un coup, un jeune novice rentre, tombe amoureux, ils ont 60 ans. Tout le monde s'en rend compte, il n'y a qu'eux qui croient que personne n'est mort. Ils sont tellement transformés, ils sont toujours là. C'est ça, c'est le cœur qui se réveille, qui se rafraîchit. Pas un péché, c'est une passion. C'est naturel. C'est bon. L'amour de complémentarité excellent. Amoureux fou. Bon, le soir, voilà ce qu'il faut qu'ils disent. À chaque fois qu'il le rencontre, il s'aperçoit que ça le mord, ça le mord, ça le mord, ça le mord. Il se laisse prendre, c'est bon. Et ton cœur se réveille bien. Et puis, tu dis à Jésus, c'est toi que je prie. Et ça, c'est très important parce que c'est toi que je préfère, parce que c'est pour ça qu'il y a l'amour de complémentarité, l'amour de similitude. Qui se conjoint toujours en Jésus, et ça permet au cœur chaste, virginal, d'être toujours dans un élan virginal. Vous voyez, comme je vous disais, que l'élan virginal du cœur se nourrit de la souffrance. Je m'arrache à celui que j'aime passionnément, mais c'est dans un cœur réveillé par cette passion et cette fraîcheur, cette véhémence que donne la passion, que je renouvelle mon amour pour Jésus pour le rajeunir. Et dans le mariage, c'est pareil. Dans le mariage, exactement pareil. je vais tomber amoureux forcément d'une nana. Guy, là, quand il sera au bout de 10 ans, là, il va tomber amoureux de, je sais pas, d'Iphigénie. Belle, brune. Bien irascible, un irascible bien appuyé. Tu vois, tomber amoureux d'elle. Alors laisse-toi surtout prendre ton cœur, surtout, c'est très très bien. Il faut absolument. Tu ne peux pas avoir peur de ça. Tu lui dis, bien sûr, Christine, tu lui dis, tu sais, j'ai pris un coup. Une vraie déesse. Alors elle va rigoler en disant, ah, quelle heure, on va prendre le. Je vais commencer à reprendre mon pied parce que. Une vraie déesse. Alors surtout, tu vas surtout l'encourager. Oui, oui, ça c'est vrai, magnifique, on va. Et puis il va dire, oui, mais c'est toi que je préfère. Et il va se donner à elle avec cet élan avec lequel son cœur s'est réveillé à cause de cette belle brune. Et on rajeunit l'amour conjugal comme ça, grâce à ces diverses passions. Les passions sont toujours transitoires, animales, et vont toujours se renouvelant ad extra. On tombera nécessairement amoureux de plein d'autres que celui avec lequel on se marie, ce qui est évident. Ce serait triste. Alors, amour de complémentarité, amour de similitude. Donc, exactement pareil. Exactement le même problème. Ça va comme. Je sais pas, il y a une cassette, sinon, de Dan Elan, je vous signale. Lettre ouverte à un homosexuel. Diaconia Service. Saint-Breladre. 35-140, je crois. Oui. Bon, je dis pas que Dan Elan soit génial dans cette cassette, je crois pas qu'il soit génial.
Dans ton corps, c'est pas l'amour, il n'en parle.
Dans...
Oui, il en parle.
Les musulmans. Comment est-ce qu'il faut voir les musulmans? Ah. On a déjà vu les protestants?
Non.
Et si on a vu les protestants, on a regardé la succession apostolique, rappelez-vous. C'était la question de la succession apostolique. Je vais vous raconter un petit peu en deux mots. Je sais pas si j'ai raconté cette histoire à Montpellier. Je vous ai raconté l'histoire de la pluie. Jamais. J'avais été en Afrique au moment d'Israël, au moment de la période de la sécheresse, vous vous rappelez? Alors les gens tombaient comme des mouches, mouraient de faim. Le désert s'était avancé 350 km. On appelle le désert la partie de sable qui ne peut plus donner du mil. Parce que le mil pousse dans le sable. Et quand le sable ne peut même plus donner du mil, on appelle ça du désert. 350 km, ça a été une catastrophe. Moi, j'étais parti au titre de l'Association française des volontaires du progrès, comme animateur culturel. Et donc, j'animais une maison des jeunes de la culture, et je faisais responsable de l'animation, de la formation des animateurs culturels de tous ces départements. J'avais jusqu'à 4000 jeunes le soir. Et quand je suis arrivé dans cette ville du Niger, Maradi, ville de 30 000 habitants à peu près, un département qui en comptait peut-être 1 million, plus. Non, qu'est-ce que je dis? 1 million, je suis bête, je pense que c'est 300 000 à peu près habitants dans le département et 30 000 dans la capitale du département. La première année, la pluie n'était pas tombée, c'est évidemment la végétation qui en a souffert, le désert. La deuxième année, les bêtes. La troisième année, les bêtes étaient. On les accumulait dans des tas énormes, qui faisaient des dizaines, des centaines de mètres cubes, crevés sur place. Et évidemment, la quatrième année, ça a été les hommes. Et il fallait. C'est un pays à 99% musulmans, c'est pas ça, c'est à propos de l'islam. J'avais, je sais pas, 24 ans, peut-être 23 ans. Et lorsque je suis parti là-bas, bon, je n'étais pas parti pour les affamer. mortellement, quoi. C'est pas à cause de ça. Et donc j'avais un travail à faire. Assez vite, il y a eu donc des éprouvés, ce qu'on appelle les éprouvés, qui crevaient de faim. Il n'y a rien de plus terrible que de voir quelqu'un qui meurt de faim. Puisque vous savez que la mort par la faim est une des morts les plus terribles qui soit, puisque lorsque vous n'avez plus assez de nourriture, vos entrailles se replient sur elles-mêmes, l'estomac se replie sur lui-même et se dévore lui-même. Et donc c'est un peu comme si vous aviez des scarabées qui sont à l'intérieur, qui vous dévoraient, dévoraient, dévoraient. Et au bout d'un certain temps, bien sûr, vous dégueulez vos entrailles, etc., qui sont digérées et mal digérées. Et comme ça vous va sortir par le bas, ça sort par le haut, alors c'est dégoûtant, et c'est horrible comme souffrance. Évidemment, quand on arrive là, on ne peut pas donner à manger, c'est foutu. Il y a eu assez vite, 3 mois après ça arrivé, les réfugiés ont commencé à venir parce que je me suis mis à la disposition du père missionnaire pour aider aux distributions de nourriture. Et donc assez vite, il y a eu 70 000 réfugiés. Donc la ville est passée de 30 à 100 000 habitants. Et c'était pratiquement moi qui prenais en charge toutes les distributions de nourriture. En plus, on partait ensuite dans le département, le dimanche, pour faire les distributions aux nomades. Il y en avait 20 ou 30 000. Bref, il a fallu prendre que le petit garçon de 20 ans, là, connaissant même pas la langue du lieu, ait sur les épaules le fait de garder en vie 100 000 personnes. Dans un contexte hostile, puisque c'est le contexte de l'islam. C'est le contexte de l'islam, donc un contexte hostile. Enfin, je passe les détails, c'est pas très important tout ça. Je passe les détails, c'est pour vous expliquer que ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu des milliards qui ont été ramassés pour aider les gens qui avaient faim. Cherchez quoi ? Bon, au bout d'un an ou un an et demi, il y a eu un coup d'État au Niger. Le lieutenant-colonel Sani Gounché a pris le pouvoir et il a fait un discours au bout d'une semaine, de 15 jours, en disant voilà, si la pluie n'est pas tombée, c'est parce que tout le monde était complètement corrompu. Et personne n'aidait les éprouvés, personne n'osait la solidarité, et personne ne priait Dieu. Donc le gouvernement du Conseil militaire suprême déclare au niveau national une semaine de conversion à Dieu. Allah. Et donc pendant une semaine, tout le monde doit prier Dieu, le gouvernement paiera les sacrifices, les agneaux, les coqs, les machins. Pendant une semaine, on a vu tout le monde taper sur les casseroles, sacrifier les agneaux, couper les coqs, tout ça. Et alors, il y avait un... Moi, j'étais connu, bien sûr, pour être Moutoum Al-Massifou, c'était mon surnom, l'homme du Christ. Alors, Oumé Chanou, celui qui a beaucoup de vaches, parce que je donnais du lait. Alors, mon gardien était venu me voir en disant « Ah, Malguida, mon Moussoumé, Zamoussala, Allah, Dewa, Zamouganiroua, nous, les musulmans, on va gagner beaucoup d'eau, parce qu'on va prier Dieu, et tac, tac, tu vas voir. » Eux, ils ont rien foutu. Rien. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé un pouce de doigt. Alors que c'est dans le Coran, la zakat, la charité. C'est une des 5 colonnes de l'islam. On n'a pas bougé. Alors moi, il m'a énervé, parce que vous comprenez, pour assurer ces choses-là, il fallait que je me lève à 2h du matin. Il fallait que je sois au boulot au moins à 8h, parce que si je ratais 5 minutes, j'étais expulsé. Évidemment, par le gouvernement, évidemment. Et puis samedi, dimanche, je reprenais, je partais sous 70 degrés au soleil, 60 degrés ou 50, je sais pas, je m'en vais plus. Bon. Et donc, ça m'avait un peu énervé. Là, j'avais répondu à Ali, sous le camp. Sénie Kouché, il a dit qu'il fallait se convertir, qu'il fallait rentrer dans la solidarité, qu'il fallait commencer à aider. Regarde autour de toi, les marabouts, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas convertis, donc la pluie tombera pas. Ce qui s'est passé, c'est que au bout d'une semaine, la pluie est tombée partout. Tout le Niger. Le dernier jour de la semaine. Partout, partout, partout. Même dans les zones les plus désertes, où de mémoire humaine, on n'avait pas vu d'eau, il y a eu des inondations. La Croix-Rouge, à ce moment-là, est intervenue pour la première fois pour donner des couvertures, pour les éprouver des inondations. La pluie est tombée partout, sauf dans mon département, C'est à cause de ça que j'ai été expulsé par le gouvernement. Parce que j'avais dit ça à ce brave Ali, mais comme on s'énerve, vous savez, à la manière d'une palabre, dans tout le camp. Et puis je lui avais répété, je lui avais dit, oui, t'inquiète pas, et j'avais été tellement triste que je dise ça, que je lui avais dit, t'inquiète pas, mou nasaraza mou salah Allah. Nous, les chrétiens, nous allons prier Dieu la semaine prochaine. Et nous allons à Mougani Roua, Dewa, 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 le dimanche d'après. Et t'es parti, moi je vais bouger, vous comprenez, j'avais ma tête ailleurs, à cette époque-là, le 14 juillet 74. 14 juillet 74, je passais le 13 juillet, qui est tombée la fameuse chose. Alors voilà comment ça s'est passé, il a été voir son marabout pendant la semaine des musulmans. Il a été voir son marabout, disant voilà, Moutouma, si vous avez essayé Allah, quand... bon, ça. Le marabout dit, je vais te foutre, alors où est la vérité? Il a dit, où est, où est Gaskia? Parce que la vérité, Ina Gaskia, parce qu'elle est. Est-ce que c'est Coran Christ, Coran Al-Massif, ou bien Coran Coran? Est-ce qu'il est dans le Coran ou bien dans le... Ah, le marabout, il a la vérité dans le Coran, pas dans le Christ. Et c'est tout. Et plus elle tombera la semaine prochaine, plus elle tombera partout, puis c'est tout. Bref, elle tombe partout, sauf là. Alors il va voir son marabout en disant, alors, en plus c'était le plus grand bout en train, ancien combattant, etc., le plus grand bout en train de la ville, alors... Oh, le deuxième jour, ils étaient une quarantaine, ils voient le marabout supérieur, le marabout encore supérieur, etc. Chaque jour, ça se décuplait. Si bien que ça se terminait le jeudi devant le grand sultan, et le grand marabout tout le département, sur la place de la mosquée, tout le monde était là pour avoir le verdict. C'était du grand marabout qui disait, mais la pluie n'est pas tombée, mais la vérité elle est avec le courant, donc ça va tomber demain. Et puis le lendemain est encore plus nombreux, vendredi, ben ça va tomber samedi. Allez, foutez votre camp. C'est comme ça qu'il parle, foutez votre camp. Et alors ensuite, arrive un samedi, ben c'est quoi? Où est la vérité? Ah ben, il a dit que ce serait dimanche. Ah ben, ça tombera pas demain. Ça tombera pas demain. Et alors le samedi soir, vers minuit, on a vu pour la première fois depuis 4 ans, un nuage. Et à minuit et demi, 3 mètres de haut. C'est trop simple. Alors moi j'étais content, j'étais furieux. Non, j'étais furieux que la pluie tombe pas. Parce que j'ai complètement oublié mon histoire. Complètement. Complètement. C'est sorti complètement de la tête, j'avais dit sur le moment. Et eux l'avaient transformé en signe de Dieu pour voir où était la vérité, le Christ ou le Coran. Et c'était devenu un signe populaire sur lequel tout le monde était au courant. Que c'était, on posait un signe. On a l'impression que mon Dieu a écarté les nuages ici, autour du département. Il a fait pleuvoir partout autour. Il a attendu une semaine pour faire... C'était extraordinaire. Alors, le lendemain, donc 13 juillet, ça, 14 juillet, l'eau coulait partout. Je dis, ah bon, enfin, merci Seigneur. Pas trop tôt, c'est tombé partout et tout, sauf ici, moi je commence à en avoir marre de la sécheresse. Moi, j'étais plutôt mécontent qu'elle tombe pas, moi. Bien sûr. Et je vois mon Ali, là, un petit bout en train, pas possible, qui était sur la terrasse, prostré. Je faisais mon travail, il me disait, c'est pas beau. Au bout d'une demi-heure, il était encore là, pensé. Je lui dis, mais là, vraiment, il... Ça va pas. J'attends encore une demi-heure, il était toujours là, prostré. Alors je le fais venir, j'ai dit, viens ici. Tu es malade, Ali? Ah, oh, Maïkita, Maïkita. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Bah, Maïkita, qu'est-ce qu'il y a, Gareka? C'est toi qui as la vérité. Mais Ali, tu es vraiment malade. Qu'un musulman dise ça, c'est impensable. Alors. Mais pourquoi tu dis ça? Et il commence à me dire, ouais, l'autre jour tu m'as dit ça. J'ai pas dit ça. Tu m'as dit ça. Ah, je dis, peut-être. Et alors après, qu'est-ce que j'allais dire après? Ça va tomber dimanche d'après. J'avais dit ça, moi. Oui, alors il n'y a pas, qu'est-ce que tu as fait? Ah, ben, j'ai dit, voilà, marabout, il y a avec ta tête, telle. Ah bon, t'es pas fou. Et puis il m'explique tout le truc.
Allez, ça va. T'es un beau salaud. Allez, tu fous le camp. T'es un beau salaud. Tu fous le camp. J'ai préparé mes bagages et j'ai été expulsé. En effet. Allez, donc l'islam, du point de vue de la vérité, oui, réponse du bon Dieu, je donne un petit exemple comme ça, c'est amusant. Le Coran n'est pas la vérité. En fait, le Coran est une émanation qui vient d'une conjonction entre une hérésie chrétienne qu'on appelle le marcionisme et une autre hérésie chrétienne qu'on appelle le nestorianisme qui a engendré l'islam. Donc c'est une hérésie au cube et qui est directement anti-chrétienne. Alors je ne sais pas ce qu'on fait maintenant, je vais laisser le micro à Anita. Ah bon.